l'actualité des idées aujourd'hui pour bien ouvrir cette semaine. Comment apprendre à mieux se connaître? L'été dernier, notre invité Christophe André a bercé vos réveils avec ses chroniques du matin, mi-fables, mi-leçons, compilées aujourd'hui dans un nouvel opus, La vie intérieure, publié à l'Iconoclaste avec France Culture, où il explore tour à tour la tendresse, la jalousie, la volonté, la honte ou encore la nostalgie. Médecin psychiatre spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels au service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, pionnier de la méditation en France, dont il a fait des livres « Méditer jour après jour » ou encore « 3 minutes à méditer », le dernier paru là encore avec France Culture. Bonjour Christophe André.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir.
Et merci.
Tout plaisir est un bien, disait Épicure, et Voltaire complétait. Le plaisir est l'objet, le devoir et le but de tous les êtres raisonnables. Voilà donc une affaire plus sérieuse qu'il n'y paraît. Et c'est vrai que beaucoup des sujets, des thèmes que vous développez dans cet ouvrage recueil de vos chroniques sont des affaires bien plus sérieuses qu'il n'y paraît, à commencer par l'époque. Christophe André, est-ce que l'époque vous semble particulièrement bruyante ?
Oui, elle est aussi particulièrement passionnante, hein, c'est un de ses charmes, mais c'est une époque en tout cas qui n'est guère propice à la vie intérieure pour tout un tas de raisons, j'en ai recensé quelques-unes dans le bouquin. La première de ces raisons, c'est l'accélération. Nous avons tellement de choses intéressantes à faire à l'extérieur de nous-mêmes que finalement nous plonger en nous-mêmes, nous n'en prenons guère plus le temps. Il y a des raisons aussi consuméristes, finalement, notre société traque les temps de non-consommation. Moins on dort, moins on médite, moins on rêve et plus on consomme finalement. Il y a aussi des données liées à l'uniformisation. Finalement, nous consommons de plus en plus les mêmes objets culturels, les mêmes, qu'il s'agisse des livres, des lectures, des films, des musiques. Il y a une tendance lourde à ce que nous réjouissions des mêmes objets et au fond, tout ça, c'est à contre-courant de ce qu'est la vie intérieure, quelque chose d'intime, qui demande du temps, qui demande des périodes régulières de retrait par rapport au monde et qui demande aussi d'écouter sa singularité.
Beaucoup de sollicitations superflues qui nous polluent inutilement l'esprit. Mal de dos, fatigue, impatience, dépression, la course après le temps, l'individualisme, le burn-out. Un célèbre moteur de recherche n'identifie pas un mal du siècle, mais bien plusieurs. Vous les voyez sous certaines formes, on imagine apparaître, défiler, pointer dans votre service à l'hôpital Sainte-Anne. On voit toute une diversité de pathologies qui seraient peut-être des maux de l'époque. Apprendre à se plonger en soi, à faire entrer le monde aussi à l'intérieur de nous, puis pour le faire ressortir, apprendre à se comprendre tout simplement. Christophe André, ce n'est pas un remède. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est ?
Ah, non, ce n'est pas un remède, parce que lorsque nos patients sont profondément déprimés ou en proie à des idées délirantes, évidemment, leur vie intérieure est plutôt un piège qu'une issue. Hein. C'est où ils sont au contraire piégés dans un excès de vie intérieure parfaitement déséquilibré. Non, par contre, c'est un outil d'équilibre sur le long terme. Vous savez, on a été le premier, sans doute, service universitaire à utiliser la méditation à partir de 2004, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Et ça n'était pas une idée farfelue. L'idée, elle est que nos modes de vie au quotidien, qu'il s'agisse d'alimentation, d'exercice physique, mais aussi de pacification intérieure, sont des facteurs protecteurs par rapport au stress, par rapport aux difficultés de notre existence, hein, qui ne manquent pas de survenir. Et donc, le fait d'avoir un rapport lucide, apaisé, impliqué dans sa vie intérieure, est un facteur de prévention, qu'il s'agisse de prévention primaire, ne pas sombrer dans les maladies psychologiques, ou de prévention secondaire, c'est-à-dire une fois qu'on sait qu'on est fragile, on a fait un état dépressif, on a eu une sorte de bouffée délirante, de choses comme ça, ne pas replonger là-dedans.
Est-ce que ça n'a pas un effet peut-être démobilisateur parce qu'en même temps, on s'adapte à cette situation de stress ou de sollicitation externe plus qu'on est amené à enlever la source du problème?
Oui, alors ça c'est un argument effectivement qui est souvent opposé à toutes les stratégies psychologiques. Est-ce que la psychologie n'est pas un frein à l'engagement politique, un frein à la résolution des problèmes sociaux, professionnels, familiaux? Au fond, tâcher de se calmer intérieurement, est-ce que ça n'est pas démobilisateur extérieurement? Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Au contraire, nous, notre conviction, enfin il n'y a pas que des convictions, il y a des données qui étayent tout de même ça. ça, c'est que finalement, ce détour par la vie intérieure, car il s'agit bien d'un détour, il ne s'agit pas de s'immerger, peut être quelque chose qui nous rend plus lucides, plus déterminés, qui nous donne plus d'intelligence et de force pour agir sur le monde extérieur. En tout cas, notre message n'est pas « ne faites rien pour changer le monde, occupez-vous de vos états d'âme ». On n'est vraiment pas du tout dans ce type de discours.
Notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h30, Christophe André, médecin psychiatre et essayiste. Vous pouvez nous suivre aujourd'hui, si vous le souhaitez, aussi en Facebook Live, sur le Facebook Live de France Culture. À la radio, Christophe André, c'est une voix enveloppante, apaisante, qui a bercé nos matinées cet été. De ses chroniques, il a fait un livre, un recueil, La vie intérieure. Mais qu'est-ce que c'est, la vie intérieure ?
De prime abord, je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de vie intérieure, que la vie intérieure n'existe pas. La vie n'est ni intérieure, ni extérieure, elle est. Mais le paradoxe est trop facile. Je pense que l'une des premières données de ce que l'on appelait jadis, et que certains continuent d'appeler la vie intérieure, est un état de réponse à un léger choc venu du dehors. C'est une sensibilité ultra développée à un appel extrêmement tenu, infime, subtil. Christian Bobin, à la recherche de la vie intérieure.
La vie intérieure, c'est tout ce dont nous prenons conscience lorsque nous désengageons doucement notre attention des sollicitations extérieures. Nous réalisons alors que nous avons un corps, que nous respirons, que des sensations nous traversent, agréables ou désagréables, que des émotions, des pensées nous habitent. La vie intérieure, c'est l'espace où tout se mélange, le dehors et le dedans, car notre vie du dedans n'est pas une bulle coupée du dehors, et la frontière qui sépare les deux, si elle existe, est poreuse.
La voix de Christophe André, la grande table sous hypnose en ce lundi avec vous. La vie intérieure, écrivez-vous, c'est tout ce flot continu de pensées, d'images, de souvenirs, de projets, de ressentis émotionnels et corporels, toute cette infinité de phénomènes impalpables, mais à l'influence immense qui se font et se défont en permanence en nous. C'est ce qui rend l'homme si singulier, Christophe André, la vie intérieure.
Sans doute, oui, on ne peut pas prétendre que les animaux n'aient pas de vie intérieure, ils en ont une sans doute, mais il est probable que la nôtre est la plus complexe, la plus réflexive, c'est-à-dire nous nous observons en train d'avoir une vie intérieure, nous pouvons nous abandonner à la rêverie, au contraire tenter de la contrôler pour canaliser notre pensée vers des objectifs précis. Donc il est probable que notre vie intérieure est quand même, dans le monde animal, la plus riche, mais aussi la plus féconde. Il n'y a pas qu'en matière artistique que la vie intérieure compte beaucoup. Beaucoup de scientifiques racontent assez volontiers comment, après avoir cogité et réfléchi de manière délibérée, ils laissent le disque dur de leur cerveau tourner tranquillement en faisant autre chose, et puis bénéficient de cette activation de ce qu'on appelle le réseau par défaut, le réseau cérébral par défaut. C'est-à-dire ce sont les mouvements de notre esprit qui continuent de produire des éléments de vie intérieure, alors que notre attention est un petit peu plus tournée vers le monde extérieur.
Et à propos de disque dur, elle nous appartient, cette vie intérieure, mais c'est aussi un espace de liberté de plus en plus convoité. Dans une société, écrivez-vous, où nos goûts sont fichés et analysés, nos pensées et nos émotions manipulées, nos comportements anticipés et programmés, demain, certains pourraient mettre la main sur cette vie intérieure, pourraient à la fois soit la transposer dans des cerveaux automatiques, dans des robots peut-être, voire essayer de contrôler notre propre vie intérieure.
Alors demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a déjà une influence énorme de nos environnements culturels et j'allais dire une pollution même de notre vie intérieure par toute cette société matérialiste et consumériste, effectivement, qui a servi notre attention à la poursuite d'objectifs. Je ne vais pas porter de jugement de valeur, mais enfin, moi j'avais une patiente il y a quelque temps qui me racontait qu'elle s'apercevait avec effroi qu'elle passait environ 1 à 2 heures par jour sur des comparateurs de prix sur Internet. Elle avait été hameçonnée par cette idée de faire la bonne affaire, etc. Donc bon, c'est un exemple trivial parmi d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que notre vie intérieure est réellement en danger, effectivement, donc c'est pas nouveau, mais là, il y a une accélération tout de même de cette désertification de notre intériorité qui est assez effrayante. J'ai souvent le sentiment, quand je reçois mes patients à l'hôpital, que le seul moment de leur vie où ils prennent le temps de se poser et de réfléchir à ce qui se passe en eux, de réfléchir à leur mobile qui préside, à leurs actes, à leurs émotions, etc., c'est quand ils viennent me rencontrer et que le reste du temps, ils sont dans une galopade à l'extérieur d'eux-mêmes.
Alors vous proposez comme technique notamment la méditation. C'est quoi le principe de toute méditation ?
Le principe de toute méditation, c'est de s'arrêter et d'observer son expérience actuelle, d'observer ce que nous sommes. C'est la première étape en tout cas. Je m'arrête et j'observe de quoi est composée mon expérience, la manière dont je respire, ce qui se passe dans mon corps, quel est le flot de mes pensées, de quelle manière aussi je suis en rapport avec ces pensées. Est-ce qu'elles m'asservissent ? Est-ce que ce sont des ruminations dont je n'arrive pas à me détacher ? Ou est-ce que ce sont des pensées vis-à-vis desquelles je peux avoir un certain recul, les orienter, etc.
Mais s'arrêter, vous dites s'arrêter, c'est pas si simple.
Non,
on n'a pas de bouton marche-arrêt.
Bien sûr.
Comment fait-on pour s'arrêter ?
Non, mais s'arrêter d'être dans l'action ou dans la distraction. Quand vous êtes dans une salle d'attente chez le dentiste, vous pouvez vous arrêter de lire ou de regarder votre téléphone et vous dire « Ok, t'as quelques minutes ou peut-être quelques quarts d'heure à attendre, profites-en pour, pour voir un peu ce qui se passe en toi. »
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, ce qui se passe, en général, si on n'a pas l'habitude, c'est le grand bazar. La vie intérieure, ce n'est pas un jardin à la française. On se tournerait vers elle et tout serait clair. Voici les idées, voici les pensées, les émotions, les ceci, les cela. C'est un grand foutoir. C'est une espèce de bavardage continu, de flot dans lequel on ne voit rien au début. Et puis, c'est comme une cave ou un grenier. Au bout d'un moment, on s'habitue, on commence à repérer ce qui relève de l'état du corps, ce qui relève des pensées, de quelle nature de pensée. C'est ce que nous apprend la méditation. La méditation, c'est un art de la vie intérieure, en quelque sorte. Et le fait qu'elle soit à la mode aujourd'hui, à mon avis, n'est pas un hasard. C'est que vraiment, on a un besoin tout de même, en tout cas, beaucoup d'entre nous ressentent ce besoin, pas seulement de diminuer notre stress, c'est une des vertus de la méditation, mais il y a d'autres techniques qui permettent de diminuer son stress, la sophrologie, la relaxation, tout un tas d'approches, mais c'est aussi une technique qui nous permet d'augmenter notre discernement, notre conscience de nous-mêmes, notre intelligence de la vie intérieure et de nous-mêmes.
Alors vous plaidez, Christophe André, pour une approche introspective, l'anti-rumination, un voyage dans le monde de nos émotions et de nos sensations, une introspection éclairée surtout avec vous, et c'est le propre de vos écrits entre la psychanalyse et la philosophie, c'est-à-dire que c'est moins un guide pratique, vous ne nous dites pas tellement comment faire et prétendez pas spécialement résoudre l'ensemble de nos maux, plutôt qu'une réflexion guidée, agrémentée de beaucoup de citations de philosophes, d'écrivains, pour tenter de comprendre ces sensations, ces émotions qui peuvent surgir en nous et tenter de les voir aussi toujours sous un aspect positif, appelé à positiver en somme.
Oui, alors c'est vrai que cet aspect positif est parfois reproché ou est parfois reproché aux soignants, aux psys qui valorisent ce type de discours, mais je crois qu'on apprend mieux quand on est de bonne humeur, tout simplement. J'ai remarqué qu'en faisant les cours à mes étudiants ou en faisant des conférences, quand je faisais sourire ou rire, je captais l'attention du public et la réceptivité s'accroissait. D'ailleurs, on retrouve ça dans beaucoup de travaux de psychologie expérimentale. Toutes les émotions ou les pensées douloureuses ou inconfortables rétractent notre attention et augmentent l'hermétisme qu'on peut avoir vis-à-vis des influences extérieures. Et les pensées positives, les ressentis positifs nous ouvrent. D'où ce que je recherche dans mes écrits, c'est de réconforter, de rassurer, de faire sourire parfois, mais aussi d'inciter à l'action. On ne peut pas dire il faut faire ceci ou il faut faire cela, mais ce qui est important, c'est dire allez-y, faites-le, testez. D'où le format des 40 petits exercices, finalement, pour agrémenter cette promenade dans la vie intérieure.
Et ça va un peu contre certaines idées reçues, parce que c'est vrai qu'en France, notamment, on a cette idée que le moteur de la création, notamment, ce serait la tourmente, la douleur, toutes ces failles, ces blessures aussi qui peuvent être en nous, failles narcissiques notamment, dans lesquelles on peut aller puiser le sel d'une œuvre, d'une écriture. Vous revenez sur cette idée reçue et vous dites qu'on peut quand même faire quelque chose de sa vie tout en étant bien, épanoui, heureux, détendu. Aujourd'hui, vos livres marchent très bien, Christophe André. On sent qu'il y a un appétit, une demande pour ce type d'ouvrage. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous diriez que la France a longtemps été réfractaire, réticente à tous ces courants de pensée ?
Oui, la situation en France était très particulière puisqu'on avait une discipline qui est la psychanalyse, qui avait une position hégémonique et la doxa psychanalytique, c'était qu'on ne doit pas influencer les choix, les manières de réfléchir des patients ou des individus ou des lecteurs. Donc c'était une discipline c'est une discipline qui reste extrêmement intellectuelle, qui garde une pertinence forte dans certaines situations, mais qui, d'où son recul, n'a pas compris qu'il y avait aussi d'autres moments, d'autres attentes qui consistaient à chercher des exemples de solutions concrètes de la part des lecteurs ou des patients. Donc, pendant longtemps, effectivement, la psychologie ressemblait à la philosophie, finalement, dont elle est issue, hein, historiquement. C'était quelque chose d'assez conceptuel, d'assez intellectuel. Puis, elle s'est réincarnée depuis pas mal d'années, notamment grâce aux recherches scientifiques sur la psychologie des émotions. Les émotions, elles résident dans le corps, elles ont des marqueurs corporels, des signaux corporels. Ça, c'est lié aux travaux, notamment, d'Antonio Damasio, hein, le grand chercheur en neuropsychologie. Et moi, je pourrais dire qu'au fond, aujourd'hui, la psychologie et la psychothérapie sont plus équilibrées en ce sens qu'elles continuent de prêter une grande attention au mode de pensée, mais qu'elles ont réhabilité la présence du corps et des émotions.
On parle beaucoup d'évaluation en ce moment. Est-ce que vous avez vraiment des évaluations de résultats sur ces techniques-là?
Alors, les évaluations...
Par rapport à la santé mentale, évidemment.
Oui. Alors, les évaluations, c'est un vaste monde. C'est vrai qu'on est allé sans doute un peu trop loin dans l'obsession d'évaluation. Moi, à l'hôpital, nous souffrons beaucoup, par exemple, de l'évaluation de nos résultats en termes de nombre de patients vus, de turnover des patients, il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps, etc. Ce type d'évaluation est toxique. Par contre, évaluer l'efficacité de ce que nous proposons ou essayer de l'évaluer, ce n'est jamais facile, voir quel type de thérapie proposer à quel type de patient, ça c'est quelque chose d'indispensable pour faire évoluer nos techniques. Sinon on est dans une religion avec une foi, un dogme, des bases qu'il ne faut jamais contester. Donc en ce sens, l'évaluation de nos pratiques me semble importante. Alors après, la vie intérieure, c'est difficile à évaluer. Il y a des travaux qui, même moi, me font un peu sourire. Des chercheurs essaient de voir, par exemple, combien de pensées par jour nous avons. Donc, ils disent, ben, en gros, un être humain moyen, il a entre 4 et 5 000 pensées par jour, qui, la plupart d'entre elles, ne dépassent pas 4 à 5 secondes. Bon, voilà, je ne sais pas trop quel est l'intérêt concret.
Alors là, des prix par France Culture, alors.
Quel est l'intérêt concret de ce genre de recherche? Mais c'est bien que ça existe. Au fond, d'autres études portent... Là, c'est plus concret, je trouve. Comment vaut-il mieux se parler? Donc, on est dans la vie intérieure. Lorsqu'on est stressé, est-ce qu'il vaut mieux se dire « je vais y arriver, je dois respirer » ou est-ce qu'il vaut mieux se parler? C'est-à-dire « Christophe, respire ». Bon, et là, très clairement, on parlait des étudiants tout à l'heure, le discours interpellatif à la deuxième personne, utiliser son prénom, « respire Christophe, redresse-toi, souris, dis-toi que tu t'en sortiras », est beaucoup plus apte à baisser le niveau de stress.
Comment vous l'expliquez?
Comment ça s'explique? Ben, parce que ça donne un petit effet de recul. Et ça évite que nous soyons... ce qui aggrave beaucoup le stress, c'est quand on se sent impuissant au centre des regards, au centre des évaluations. Si vous sortez un peu de vous-même avec la deuxième personne, l'interpellation comme ça, l'hypothèse, c'est que, au fond, vous cessez d'alimenter cette crainte d'être victime des regards autour de vous. Ce n'est pas extrêmement convaincant, mais en tout cas, les résultats sont là.
Qu'est-ce qu'on risque à se laisser trop posséder par des sentiments comme la honte, comme la jalousie, comme le ressentiment, comme la déception que vous décrivez dans cet ouvrage, Christophe André?
Non, on risque gros parce qu'effectivement, les émotions douloureuses ou les ressentis, les états d'âme douloureux, comme ceux que vous venez de citer, ont pour fonction d'être des signaux d'alerte, des starters à notre réflexion. Lorsque la tristesse arrive en moi, et ça tous les poètes, tous les philosophes l'ont parfaitement bien décrit, je dois la prendre au sérieux. Je dois considérer que l'apparition du signal émotionnel de tristesse ou de la dépression ou des autres, de culpabilité, représente un message qui attire mon attention sur le fait que je ne suis plus en adéquation avec le monde extérieur, avec les personnes qui m'entourent, avec mes idéaux ou mes besoins n'ont pas été satisfaits. C'est la grande théorie hein, des rapports entre émotion et besoin. Émotion agréable, besoin satisfait ou en voie de l'être. Émotion désagréable, besoin non satisfait. ou en voie de ne pas l'être. Et donc, l'idée de ces émotions douloureuses que nous développons dans la méditation, quand on apprend à nos patients à méditer, on leur demande de ne jamais éviter, ou de ne pas éviter systématiquement les émotions douloureuses, mais de s'arrêter pour observer un petit peu d'abord dans quel état elles nous mettent, vers quel type de pensée ou d'impulsion elles sont en train de nous conduire, et au fond, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ça? Finalement, quelle est la part dans ce signal que quelque chose ne va pas, que nous pouvons retenir, et quelle est la part dont nous devons nous méfier, puisque le problème de ces émotions douloureuses, malheureusement ça ne marche pas comme ça pour les émotions agréables, c'est qu'elles ont tendance à entraîner des cycles de rumination, à se reproduire de manière assez infinie.
Et donc là, il faut les arrêter un peu au début.
Il faut les écouter.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas les refouler, c'est ça?
Ah non. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de les refouler ou de passer outre, mais elles reviendront, évidemment, ça les psychanalystes l'ont parfaitement compris et décrit. Et donc, cette sorte d'hygiène émotionnelle quotidienne qui est représentée par un autre exercice de vie intérieure qui est le journal intime ou les moments d'examen de conscience ou d'introspection est extrêmement précieuse. Et les personnes qui ne se livrent pas à ce genre d'exercice et qui ont une vulnérabilité, on n'est pas tous obligés de faire ça, mais si j'ai une vulnérabilité personnelle à l'anxiété, à la dépression, à la culpabilité, j'ai vraiment intérêt à adopter ce type de démarche comme style de vie, exercice sinon quotidien, moins régulier.
On peut peut-être se prêter un petit exercice avec Antoine Mercier. Comment vous définissez une rumination?
Alors Antoine, donc est-ce qu'il faut dire oui, donc ça va aller, tu vas t'en sortir?
Non, Antoine. Est-ce que vous savez quand vous êtes en train de réfléchir ou quand vous êtes en train de ruminer?
Ouais, mais je pense qu'il peut y avoir un intérêt à la rumination aussi, parce que ça permet de laisser aussi les choses décanter. Ça fait changer la substance aussi de l'objet ruminé. Donc la rumination n'est pas forcément sans but et vaine.
Christophe André.
Oui, alors la rumination est un moment délicat qui sollicite notre discernement. La rumination, nous, la définition en psychologie, comme des pensées circulaires, stériles, répétitives, qui n'aboutissent que rarement à une décision, finalement. On tourne en rond, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi ça me tombe dessus, etc. Donc, autant le départ de la rumination, qui est une interrogation sur un problème qui me concerne est légitime, autant son processus même est une source de souffrance. Et d'ailleurs, ça par contre, alors c'est quelque chose, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que la rumination est un symptôme transdiagnostique, qu'on la retrouve aussi bien dans les troubles anxieux, dans les troubles dépressifs, dans les troubles des conduites alimentaires, dans certaines formes de pathologies délirantes, etc. Donc, on encourage nos patients qui ont tendance à ruminer à se poser trois questions, effectivement, que je propose dans le livre, pour faire la différence entre réfléchir et ruminer. Parce que le grand piège, évidemment, de la rumination, c'est qu'on croit qu'on est en train de réfléchir, on est juste en train de s'épuiser, à tourner en rond, à chercher une issue à nos souffrances qui n'arrivera jamais. Donc, les différentes questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, depuis que je suis en train de réfléchir à ce sujet, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que finalement, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien ou est-ce que c'est de pire en pire? Deuxième question, est-ce que ça m'a rapproché d'une solution? Est-ce que finalement, j'ai commencé à trouver des... Oui ou non? Et troisième question, si ça ne m'a pas rapproché d'une solution, si je ne me sens pas mieux, au moins est-ce que j'y vois un peu plus clair dans ma vie, dans le problème? Si vous répondez non aux trois items, c'est que vous n'êtes plus en train de réfléchir mais de ruminer. Et dans ces cas-là, c'est un des paradoxes aussi de la vie intérieure, le mieux qu'on ait à faire, c'est de sortir marcher, courir, parler, et pas de tenter de stopper avec la seule force de son mental les ruminations. C'est un sacré boulot que d'interrompre simplement par sa volonté des cycles ruminatoires.
Mais le docteur André quand même nous dit qu'on a le droit à un certain type de rumination, c'est les ruminations positives, se repasser en boucle les bons souvenirs de la journée ou de la semaine, ça c'est autorisé. On essaie ?
Bon.
France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
La Grande Table aujourd'hui avec Christophe André pour son recueil de chroniques La Vie Intérieure et aux éditions de l'Iconoclaste en partenariat avec France Culture à paraître. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre en Facebook Live sur la page de France Culture. Est-ce que vous vous interrogez, Christophe André, sur la manière dont vos livres, dont vos recommandations, vos explications, vos analyses sont réceptionnées par le lecteur? Quel effet ça peut leur faire?
Oui, je m'interroge beaucoup sur ça, comme la plupart des auteurs, je pense, de livres de psychologie. Je m'interroge même en amont, c'est-à-dire que lorsque vous écrivez un livre dont vous savez qu'il va être lu par le grand public, et dans une démarche de besoin, hein, les gens qui achètent mes livres, qui achètent les livres que j'écrivais autrefois, plus tournés vers les phobies ou l'estime, les problèmes d'estime de soi, ou les livres d'aujourd'hui sur la méditation, c'est rare qu'ils y viennent seulement par curiosité. C'est la plupart des personnes viennent chercher quelque chose qui est de l'ordre du réconfort, de l'aide aux soins qu'ils sont en train d'entretenir. Donc nous avons une responsabilité. Et lorsque j'écris, je réfléchis toujours au lecteur qui est en train, ou à la lectrice, qui est face à mon livre seul, triste, peut-être un peu suicidaire, etc. Donc je pèse quand même mes mots, notamment dans un de mes livres précédents, où j'avais fait tout un chapitre sur le suicide, qui me semblait important. Je trouvais que c'était important de parler du suicide, mais je l'ai écrit avec la pensée constante de me dire quel effet pourrait-il avoir sur un lecteur. Et donc je fais relire mes bouquins avant parution par des patients, des personnes vulnérables qui sont à même de me dire « Oh là là, là, c'est pas clair, évidemment, mais là aussi, là, c'est un peu chaud quand même, ça fait de la peine, ou ça ferme à toute forme d'espoir. » Donc, c'est une responsabilité très importante que nous avons.
Et voilà, vous avez beaucoup de lecteurs, de lectrices. Vous n'avez pas l'impression parfois de passer à un stade gourou, ou un stade directeur de conscience?
Si, bien sûr. Vous savez, quand... Là, on a davantage de responsabilités sur les épaules, évidemment, quand on a des tirages de nos bouquins qui arrivent à 100 000 exemplaires ou des choses comme ça. On reçoit aussi beaucoup de lettres de lecteurs qui, la plupart du temps, nous remercient, nous disent que vraiment le boulot qu'on a fait les a aidés. Ça, c'est très, très réconfortant. Et puis, on découvre aussi, en rencontrant nos lecteurs, en écoutant les nouveaux patients, qu'on est en train de changer de statut, qu'on apparaît un petit peu comme un thaumaturge. Lorsque vous savez écrire un livre, lorsque vous savez expliquer vos idées clairement, le danger qui vous menace, c'est que, évidemment, vous idéalisez et que les gens ne viennent plus vers vous ou vers vos livres pour être soignés et pour être sauvés, pour que vous fassiez une sorte d'imposition des mains psychologiques qui les arrachera pour toujours à leur souffrance et ils pensent que vous êtes supérieur aux autres, mais vous n'êtes pas supérieur aux autres en tant que thérapeute ou soignant, vous savez juste écrire des livres. C'est le grand malentendu, effectivement, de la notoriété dont nous essayons de nous défendre. Moi, je rappelle assez volontiers dans mes bouquins mes propres vulnérabilités, mes propres limites, mais le boulot est à refaire de manière incessante, tant au cœur de chacun d'entre nous, je crois, c'est pas seulement les lectrices et les lecteurs, réside le besoin d'idéaliser, d'admirer et de rencontrer des sauveurs.
Donc, pas d'injonction, pas de prescription, c'est ça la règle que vous vous fixez?
Non, parce que, alors oui, ça dépend ce que vous appelez injonction ou prescription. Moi, je pense que la grande menace qui pèse sur nous lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est l'immobilité. Le fait de rester figé dans les mêmes habitudes psychologiques, comportementales, relationnelles. Donc, j'incite beaucoup les lecteurs à tester des nouvelles façons de faire. C'est ce que nous faisons en thérapie. En thérapie, moi, je fais partie du courant des thérapies comportementales. Et qui a souvent été mal compris, où les critiques qui nous étaient adressées à un moment disaient qu'on était des sortes de dresseurs, de dresseurs pavloviens, on conditionnait nos patients à adopter des nouveaux comportements. On est plutôt des expérimentateurs, quelqu'un qui a très peur de parler en public. Nous allons expérimenter avec lui l'effet que ça fait d'aller chanter dans le métro, de demander un euro dans la rue. Enfin, on ne le fait pas tout de suite, on fait ça progressivement. Donc, on incite nos patients ou nos lecteurs à se remettre en mouvement. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de dicter ce qu'il faut faire. On suggère des exercices en disant, voilà, faites-le, regardez. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous êtes mieux, moins bien, etc. Mais c'est vrai que nous sommes des thérapeutes de l'engagement et de l'action.
Thérapeutes du symptôme aussi, peut-être, plutôt que de la maladie, alors?
Oui, alors ça, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. On prête quand même attention à la signification des troubles, des souffrances, à leur histoire, à leur mise en place, à leur ramification inconsciente éventuellement. Mais nous considérons qu'un des levier d'action qui a longtemps été négligé en psychothérapie, c'est le présent, la modification du comportement. Il y a d'autres leviers d'action, la prise de conscience de la source de nos troubles, des choses comme ça, mais le fait de modifier un symptôme modifie tout l'édifice. Hein. Vous ne pouvez pas toucher à une partie de la souffrance sans que ça modifie votre regard sur vous-même, finalement. Si en agissant sur un symptôme, finalement, vous sentez mieux, vous portez un regard neuf sur vous, ça va radicalement changer le regard que vous portez sur votre personne et sur votre passé.
Et puis, Christophe André, vous êtes une autorité scientifique, en tout cas perçue comme telle par vos lecteurs. Vous êtes médecin psychiatre, vous êtes rattaché au service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne. Comment l'Académie observe-t-elle le développement de ces pratiques, de ces essais aussi liés au développement personnel? Est-ce que vous avez maintenant la reconnaissance des institutions médicales?
Oui, enfin pas seulement moi, mon cas n'est pas le plus intéressant, mais si on prend l'exemple de la méditation, c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à proposer la méditation dans le service où j'exerce, les réactions allaient de la condescendance, quoi ces petits joujoux là, d'allumer, à la méfiance, hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires, est-ce ces gens n'ont pas basculé dans un mouvement sectaire? Il y a des médecins qui appartiennent à des sectes et qui tentent comme ça de manœuvrer dans les institutions de soins. Et ces mouvements de condescendance ou de méfiance se sont transformés au fil des années, au fil des résultats obtenus, au fil des publications scientifiques. Et aujourd'hui, par exemple, la méditation, qui était extrêmement exotique il y a encore une quinzaine d'années, eh bien, est considéré comme un outil adjuvant aux soins. Il ne s'agit pas de remplacer les médicaments ou les psychothérapies par la méditation, mais, comme je le disais tout à l'heure, de considérer que méditer, comme faire de l'exercice physique régulièrement, comme manger des fruits et des légumes, est bon pour la santé. Et donc ça, c'est un vrai changement par rapport à des disciplines voilà, qui paraissent un peu éthérées, un peu vaporeuses, un petit peu floues. Donc, le regard de l'académie, comme vous disiez, de la science, a changé, effectivement. Mais légitimement, il y a quand même un paquet de données scientifiques, même si elles ne sont pas toutes du même niveau, qui vont dans le sens d'une acceptation de ces pratiques.
Dernière question. Comment va la psychiatrie aujourd'hui ?
Ah, mon bon monsieur, la psychiatrie va pas très fort, quoi. Enfin...
La psychiatrie devrait vous lire, alors, peut-être.
Pardon,
la psychiatrie devrait vous lire, vous lire la vie intérieure de Christophe André.
Oui.
Ça porterait mieux.
Ça, c'est le cas pour un certain nombre de mes collègues. Non, nous sommes victimes, comme l'ensemble du monde des soins, des problèmes de restriction de budget, des problèmes d'obsession de la rentabilité, enfin, notamment à l'hôpital. Hein, les directeurs d'hôpitaux et les comptables ont pris le pouvoir par rapport aux médecins.
Là, tout le monde est d'accord là-dessus.
Ouais,
vous êtes rassemblés comportementalistes.
C'est quand même un souci. Oui.
Merci beaucoup. Merci à vous. Christophe André. La vie intérieure aux éditions de l'Iconoclaste avec France Culture est à paraître. Je crois qu'il n'est pas encore sorti.
La semaine dernière.
J'ai pas arrêté d'employer le futur. Donc au passé, merci beaucoup Christophe André. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, à la programmation préparation aujourd'hui encore, Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc avec l'aide très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et rendez-vous demain.